Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, direction les Antilles et plus exactement la Martinique. C'est en effet là, sur cette île des Caraïbes, que se déroule essentiellement le premier roman de notre invitée, Anne Terrier, qui s'est lancée dans une enquête historique et familiale, laquelle prend une de ses sources le 8 mai 1902, date de la terrible éruption de la montagne Pelée qui a fait près de 30 000 victimes à Saint-Pierre. Une catastrophe qui a façonné une terre, une histoire et les générations suivantes. Comme en témoigne ce livre, intitulé « La malédiction de l'Indien », paru chez Gallimard dans la collection Continent Noir, dont l'auteur nous lit tout de suite un extrait.
L'histoire de notre famille, originaire de Saint-Pierre, est traversée des mêmes soubresauts que l'histoire de la Martinique. En apparence, tout va bien. Mais en sous-sol, ça travaille, ça craque, ça bouillonne tel un volcan. Il fait semblant de dormir durant des siècles ou des décennies, puis viennent les alertes, les grondements sourds, les signes avant-coureurs que personne ne voit ou ne veut voir, fumerolles venues des profondeurs. L'amour se dissout dans l'eau bouillante du cratère, d'où s'échappent d'inquiétantes vapeurs. Jusqu'au jour où se produit une explosion cataclysmique qui laisse s'échapper la lave dévastatrice. Viennent ensuite les ricochets, les répliques qui, bien que douloureuses, achèvent de régler la question. C'est seulement alors que la voie est dégagée pour les générations futures. Nous, les descendants du docteur Danceny, entretenons avec la catastrophe un rapport mouvant, changeant, insaisissable. Plusieurs membres de la famille possèdent un morceau du puzzle, mais ces différents morceaux peinent à s'emboîter les uns dans les autres. Ainsi, personne ne possède une vue d'ensemble de l'événement, ce que d'ailleurs personne ne revendique. J'ai donc entrepris de confronter les différents récits, si chaotiques soient-ils, à partir d'interviews, de témoignages d'articles et de documents d'archives. Après quelques hésitations, j'ai décidé d'ajouter à ces recherches certains de mes souvenirs d'enfance et d'adolescence. Il me semblait que la mémoire familiale, pour éparpillée et vacillante qu'elle soit, passait également par celle qui avait entrepris d'en rassembler les morceaux. Ce métissage littéraire m'a paru s'accorder aux événements qui ont marqué l'histoire des Antilles, puisque c'est par le métissage que s'est fait le peuplement de ces îles. Quant au chaos, il s'installa en Martinique tout au long des années qui suivirent la catastrophe.
Bonjour Anne Terrier.
Bonjour.
Merci beaucoup pour cette lecture extraite du début de votre livre intitulé « La malédiction de l'Indien », sous-titré « Mémoire d'une catastrophe », un récit articulé autour de l'éruption de la montagne Pelée, qui par sa lave, sa fumée, ses torrents de boue, a tué l'un de vos ancêtres, le docteur Danceny, qui avant d'être emporté dans la catastrophe, a pu sauver sa fille, Passion, en lui faisant quitter la ville. Passion, votre grand-mère, dont vous allez nous raconter la vie, ainsi que celle de ses enfants, voire la vôtre, entre les lignes, nous y reviendrons. Mais pour commencer, pourquoi avez-vous choisi comme point de départ cette éruption tragique, il y a presque 120 ans, pour retracer votre histoire familiale, Anne Terrier?
Au départ, je voulais simplement mettre par écrit cette histoire familiale qui était relativement compliquée, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, j'en avais déjà parlé à mes enfants, bien entendu. Mais chaque fois qu'on je relatais un épisode différent, mon fils ou ma fille me disait « Mais attends, je comprends pas, c'est qui celui-là, c'est le grand-père, l'arrière-grand-mère. » Enfin bon, ça avait l'air d'être assez compliqué, voilà. Et donc, je me suis dit, je vais rassembler en un petit document les récits familiaux dont j'avais été destinataire comme tous les membres de ma famille. Et puis de fil en aiguille, effectivement, en creusant l'histoire de la famille, puisque mon arrière-grand-père est mort le 8 mai 1902 à Saint-Pierre, eh ben je me suis pris de d'une envie de chercher plus, de confronter les témoignages écrits, les témoignages oraux, voilà. Et du coup, ça a pris une ampleur que je n'avais absolument pas prévue. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que le peuplement des Antilles, donc, s'est fait par métissage entre les Blancs descendants des colons, les Noirs descendants des esclaves et les Indiens descendants des coulis, à savoir les immigrants indiens qui sont venus remplacer les esclaves à l'abolition de l'esclavage. Voilà. Et donc, pourquoi cette catastrophe m'a interpellée autant que ça? C'est parce que je connais un peu les histoires de traumatismes familiaux, de par ma formation, de par des gens que j'ai eu l'occasion de contacter. Et il m'a semblé que ma famille, la famille d'Anceny, était assez représentative de tout ce qui a eu lieu en Martinique à cette époque, donc en 1902, à la fois du fait de l'éruption, du fait de la colonisation, du fait des traumatismes de l'esclavage.
Donc vous vous rendez compte en fait que pour mieux comprendre l'histoire familiale, il faut remonter donc à cet événement tragique, d'où votre enquête à la fois administrative mais également auprès de vos proches qui sont toujours vivants. Mais la question que je me posais, quand vous commencez d'écrire sur ce sujet, est-ce que vous connaissiez en effet cette polémique, par exemple, selon laquelle les habitants auraient dû être évacués, mais ça ne s'est pas fait en raison des élections qui devaient se faire plus tard. Est-ce que vous saviez aussi que suite au sinistre déjà considérable, s'est ajouté le pillage, ensuite il y a eu un raz-de-marée, et puis il y a encore eu la spoliation des biens immobiliers, puisque Saint-Pierre a été rayé de la carte. Est-ce que tout ça, vous le saviez déjà, Anne Terrier, ou vous l'avez découvert en écrivant ce livre?
Alors, ce que je connaissais déjà, mais quasiment depuis tout le temps, je peux même pas vous dire depuis quand je le connaissais, c'était effectivement l'histoire du raz-de-marée, l'histoire de ma grand-mère sauvée du raz-de-marée, l'histoire de la rumeur, mais qui, moi, ne m'a jamais été présentée comme étant une rumeur. Moi, je l'ai toujours prise comme un fait acquis, voilà. En revanche, tout le reste de ce que vous avez cité, ce sont des choses que j'ai effectivement découvertes. Les pillages des personnes décédées, la spoliation des terrains de Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre a été rayé de la carte. Alors, géographiquement, le 8 mai, mais ensuite administrativement, puisque la commune a été rattachée à une autre commune, la commune du Carbet. Et surtout, ce que j'ignorais totalement, c'est l'élan, l'énorme élan de solidarité qui a eu lieu tout de suite après la catastrophe. Le monde entier s'est mobilisé en envoyant des fonds, des secours. Les États-Unis ont envoyé plusieurs bateaux chargés de vivres, de médicaments, etc. Et ça, dans les récits familiaux, je n'en avais jamais entendu parler.
Et en revanche, il y a un abandon du gouvernement en métropole.
Alors, on ne peut pas dire un abandon. Le gouvernement a bien entendu participé, évidemment, à cet élan de secours. Simplement, l'administration à la fois centralisée et puis surtout l'administration coloniale a estimé que tous ces fonds devaient transiter par la France. Donc, le temps que ça arrive en France et qu'ensuite ça soit dispatché à la Martinique, il s'est écoulé un certain temps et ça n'a pas du tout été des secours d'urgence, si vous voulez.
Voilà, toutes ces scènes que vous racontez, que vous restituez un peu avant l'éruption, évidemment, du 8 mai et puis dans les jours, les semaines qui ont suivi, avec ce point d'orgue, la disparition des archives, ça veut dire la disparition des identités des uns et des autres, leurs origines, leur passé, leurs ancêtres, toute la généalogie, comme si 50 ans après l'abolition de l'esclavage, la deuxième abolition, 100 ans, les personnes étaient à nouveau reléguées à l'anonymat. C'est quand même terrible, ça, Anne Terrier.
Absolument. Alors, il faut quand même savoir que du point de vue de la généalogie, en 1902, les personnes ne savent, ce qui est, c'est toujours le cas actuellement, c'est-à-dire qu'en fait, les Antillais ne connaissent pas leurs véritables origines. C'est-à-dire que ceux qui sont, comme moi, entre autres, descendants d'esclaves, on ne sait pas de quel pays d'Afrique viennent nos ancêtres. Je suis également descendante des Indiens, les coulis qui ont remplacé les esclaves. Je ne sais pas de quelle région d'Inde vient mon ancêtre. Voilà. Donc, en 1902, il y avait déjà relativement peu d'informations sur les ancêtres, mais quand, en plus, effectivement, l'éruption détruit toutes les archives, non seulement les photos, enfin voilà, toute la mémoire familiale, c'est une sorte, effectivement, de double peine.
On va sortir un peu du chagrin intérieur parce qu'il n'y a pas que ce sentiment ni dans votre livre, ni en Martinique. Et je vous propose d'écouter maintenant une chanson que vous citez. Il s'agit du titre Madiana, interprété par Joséphine Baker. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui notre invitée Anne Terrier qui vient de publier La malédiction de l'Indien aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir. Un titre dont l'explication est donnée à la toute fin du livre. Est-ce que vous voulez bien raconter à nos auditeurs et à nos auditrices ce qu'est cette malédiction de l'Indien ?
Alors, c'est effectivement le tout dernier chapitre du livre. Les premiers habitants de la Martinique étaient des Indiens Arawak. C'était un peuple apparemment très pacifique. Les Indiens Caraïbes étaient, semble-t-il, un peuple beaucoup plus agressif. Bon, ils ont donc pris le territoire aux Indiens Arawak. L'île de la Martinique a été découverte en 1502 par Christophe Colomb. Christophe Colomb, en fait, avait déjà pris possession d'un certain nombre de petites îles des Antilles. Mais en fait, ce qu'il cherchait, c'était de l'or et là-bas, il n'y en avait pas. Donc, il s'est désintéressé de ces petites îles pendant très longtemps. Et puis, un siècle et demi plus tard, ce sont les Français de la Compagnie des Indes d'Amérique créée par Richelieu qui ont débarqué sur ces petites îles que eux ont trouvé très intéressante. Donc, comme elles étaient occupées par les Indiens Caraïbes, elles se sont battues très, très férocement, parce que les Caraïbes étaient des Indiens dits féroces. Mais les Indiens Caraïbes ont vu assez rapidement qu'ils n'auraient pas le dessus. Alors, beaucoup se sont enfuis vers les petites Antilles, vers Sainte-Luce, notamment. Et puis, ceux qui sont restés étaient les chefs indiens, qui ont décidé que, plutôt que de se soumettre à l'occupant français, ils ont décidé de se suicider. Et donc, ça, c'est la légende de la Martinique veut que, avant de basculer dans le vide, le dernier indien de la Caraïbe ait lancé une malédiction aux colonisateurs français et aurait dit « la montagne de feu nous vengera ». C'était une prédiction dont on peut dire qu'elle s'est réalisée.
Et vous êtes superstitieuse, vous, Anne Terrier ?
Absolument pas.
Alors, c'est ce que vous dites, et en même temps, on voit bien dans votre récit biographique à quel point vous êtes quand même sensible aux dates,
voilà,
à certaines dates de naissance. Donc, on va arriver à l'autre strate de ce récit, puisque après le portrait du Nil traumatisé et des séquelles qui se font sans doute encore sentir de nos jours, vous faites également le portrait d'une famille de 3 voire 4 générations, avec pour commencer, on l'a dit, donc passion, orpheline de père suite à l'éruption du volcan, c'est ce qu'on a évoqué en première partie, qui va être élevée par sa mère d'origine bretonne, c'est cela, avant de devenir institutrice, elle voulait devenir médecin comme son père, mais malheureusement, à cause de la spoliation, elle n'a pas pu réaliser ce vœu, et elle va partir à Paris, mener la belle vie d'une jeune femme. Vous l'avez connue dans son troisième âge, elle avait eu une vie très énigmatique, c'est cela, Anne Terrier ?
Oui, alors, quand je l'ai connue, c'était l'image d'une grand-mère douce. Elle était très, très belle, mais elle avait un visage très doux, très souriante. C'était une toute petite bonne femme, mais dont on sentait quand même qu'elle avait une certaine énergie. Mais à l'époque, j'en savais quasiment pas plus, parce qu'en fait, bien qu'elle habitait Paris, pas loin de chez nous, ma famille, mes cousins, mes oncles et tantes aussi, on avait relativement peu de contact avec elle.
Elle ne passait pas Noël avec vous, par
jamais,
exemple.
Jamais, alors que, bon, vous savez, dans les familles antillaises, on est nombreux, donc on se rassemble assez fréquemment, avec beaucoup de plaisir. Et donc, il y avait tous mes cousins, mes oncles, mes tantes, jamais la grand-mère. Bon, moi, c'était comme ça, hein. J'étais gamine, je me suis pas posé plus de questions à l'époque. Et c'est vrai qu'en interrogeant les personnes autour de moi, en cherchant à gratter, à savoir ce qu'il y avait derrière toute cette absence
d'affection.
Oui, on peut dire ça, parce qu'il y avait quand même cette distance, en fait, cette distance.
Vous allez découvrir ce qui a séparé peu à peu cette grand-mère, passion, de ses filles. Qui sont nombreuses, parce que quand voilà. Passion va rencontrer en métropole à Paris un jeune homme, elle va l'épouser, ils vont rentrer en Martinique, ils vont avoir 6 enfants, dont 5 filles,
voilà.
Votre maman et vos tantes, qui pour la plupart sont installées en métropole,
toutes.
Où vous êtes née, Anne Terrier. D'ailleurs, je me demandais, quel lien avez-vous aujourd'hui avec cette terre ancestrale ? Et je fais une petite parenthèse, dont évidemment l'une des figures emblématiques est le poète Édouard Glissant, dont vous êtes la nièce, mais nous en reparlerons dans un instant si vous voulez bien. Avant tout, que représente cette île pour vous ?
Ben, je dirais justement pour reprendre le titre d'un poème d'Édouard Glissant qui s'appelle « Pays réel, pays rêvé », la Martinique pour moi c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un pays que j'ai connu quand j'étais tout bébé, mais j'en ai aucun souvenir. Je suis née à Paris, mais j'ai vécu en Martinique pendant 1 an, mais quand j'étais nourrisson. Et ensuite, je suis retournée relativement peu souvent pour les vacances. Donc, c'est un pays à la fois un peu imaginaire, un peu rêvé. Et en même temps, c'est vrai que quand je suis en Martinique, c'est toujours une grande émotion de voir que les gens du pays me considèrent comme une fille du pays. Et voilà, c'est un peu ce double rapport, si vous voulez, que j'ai avec les Antilles.
Et en même temps, avec cette question de la couleur de peau que vous évoquez. Parce que vous écrivez page 160, il nous fallut attendre l'année 2009 pour posséder cette information qui fait de ma mère et de mes tantes, non pas des noirs, comme nous l'avions toujours cru, puisque leur père, descendant d'esclaves, l'était bel et bien, mais des métisses, qui fait de nous, leurs enfants, non pas des métisses, mais des carterons, et qui fait de nos enfants, non pas des carterons, mais des octavons. Nous étions désormais plus blanches que noires, un changement de perspective qui aurait pu, si nous n'avions déjà atteint l'âge où l'on sait que le sentiment de négritude ne dépend pas de la couleur de la peau, infirmer tout ce en quoi nous croyions depuis l'adolescence, notre appartenance à la communauté noire. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Anne Terrier ?
Alors, en fait, c'est toute la complexité et la complexité des Antillais et les difficultés d'identité des Antillais. Alors, ça fait référence à plusieurs choses. Alors, déjà, au fait que ce qu'on appelle le colorisme aux Antilles, dont on ne parle pas, mais que les Antillais vivent au quotidien, c'est la hiérarchie des couleurs de peau. On pourrait croire que dans un pays dont la population s'est constituée par métissage, blanc, noir, indien et autres, hein, syrien, libanais, etc., a priori, on se dit, depuis le temps qu'ils vivent ensemble, ils doivent vivre en bonne harmonie, etc. En fait, pas du tout. Le colorisme, c'est du racisme, mais dans le sens où on hiérarchise les couleurs de peau, c'est-à-dire que le blanc, donc plus vous êtes pâle, blanc de peau, plus vous êtes considéré comme nanti, possédant, au-dessus dans la classe sociale supérieure. Ensuite viennent les noirs, les métis, enfin voilà. Et en dernier viennent les indiens qui ont pris la place des noirs, si vous voulez, après l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose qui est dans les mentalités des Antillais, qu'ils soient blancs, qu'ils soient métis ou qu'ils soient noirs. Et en fait, le colorisme, c'est une sorte de rejet de celui qui est différent, même quand il est dans votre propre famille et même quand vous-même, vous êtes de sang mêlé.
Mais qu'est-ce que ça a changé pour vous, Anne Terrier, finalement, je suis plus blanche que noire?
Ça n'a rien changé, ça n'a absolument rien changé. Mais simplement, c'est pour nous, ça voulait dire que des informations comme celle-ci nous ont été cachées pendant des années et des années. Et donc, passion, ma grand-mère qui disait tout le temps qu'elle n'avait pas une goutte de sang noir alors qu'elle est noire de peau. Tout le monde disait elle est un peu pas bien. Enfin, de toute façon, elle l'était un peu pas bien, mais voilà. Et en fait, elle disait ça avec une grande fierté parce qu'elle était, donc elle était métisse, blanche et indienne. Et quand elle disait qu'elle n'avait pas une goutte de sang noir, elle voulait dire qu'elle n'avait pas de sang d'esclave. Et ça, c'est quelque chose qui nous a énormément étonnée de voir que elle-même, qui avait vécu à Paris, qui était elle aussi de sang mêlé, qui avait épousé un descendant d'esclaves, qu'elle-même rejetait une partie de l'identité des Antillais. Ensuite, on a appris aussi très tard que la mère de Passion était blanche, puisque dans notre famille, tout le monde est quand même relativement plus ou moins bronzé. Il y a toutes les couleurs de peau dans les familles. Voilà. Et donc, du coup, ça, pour moi, c'était vraiment le signe que des non-dits de toute cette histoire qui ne se transmet pas ou qui se transmet mal, de toutes ces choses qu'on ne dit pas. Et moi, ça m'a paru aussi assez symptomatique des traumatismes. Voilà, ça, c'est une autre façon de perpétuer les traumatismes, celui de l'esclavage, celui de la montagne pelée, celui de la colonisation, et en plus les non-dits, les secrets de famille, etc. Et pour moi, le volcan, si je peux me permettre, c'est un peu le symbole de tout ça. C'est le symbole de ces non-dits qui ne se disent pas. Mais vous savez, les psys disent que le secret suinte. Et moi, ce suintement, ça m'a vraiment fait penser à la lave, qui c'est le magma qui s'écoule du volcan. Et le volcan, c'est aussi un peu le symbole de toutes ces choses, de tous ces traumatismes qui ont eu lieu, mais qui ne se disent pas, dont on ne parle pas. Et je me suis dit, ça peut faire du bien d'en parler.
Cette question de l'identité, ça nous, évidemment, ramène à Édouard Glissant, ce grand intellectuel, essayiste, poète, romancier, philosophe, penseur de la créolité, fondateur de l'Institut Tout Monde, un homme d'une grande aura. Vous l'avez bien connu, Anne Terrier ?
Oui, alors je l'ai connu depuis toute petite. Avant d'être l'époux d'une de mes tantes, c'était un ami de jeunesse de mon père. Et ensemble, donc parce que mon père était poète lui aussi, donc ils se sont connus dans les cercles de poésie. Et ensemble, ils ont connu les cinq sœurs Suvelor. Ensemble, ils sont tombés amoureux de deux des sœurs. Ensemble, ils en ont épousé deux. Et presque ensemble, ils ont eu leur premier enfant. Voilà. Donc, Édouard a toujours fait partie de ma famille, de mon enfance, de mon adolescence.
Que vous appeliez Mathieu?
Mathieu, parce qu'en réalité, c'était son vrai prénom. De même que Passion, ma grand-mère, c'était son deuxième prénom, parce qu'aux Antilles, pour protéger les enfants des mauvais esprits, des sorciers qui pourraient leur jeter des sorts, on inverse très fréquemment le second et le premier prénom. Donc nous, ça a toujours été Mathieu, voilà, mais bon, c'est...
L'admiration que vous aviez pour Édouard Glissant, est-ce que ça vous a freiné dans votre envie d'écrire Anne Terrier?
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y avait à la fois donc effectivement l'admiration pour ce grand homme, même si j'étais proche affectivement, aussi celle pour mon père qui était un poète aussi reconnu. Et en même temps,
il vous a aussi transmis, lui et d'autres personnes de votre famille, le goût de la littérature, parce que vous avez toujours travaillé dans ce milieu intérieur.
Oui, absolument. Donc j'ai été effectivement, traductrice, journaliste, correctrice, j'ai travaillé dans l'édition. C'est vrai que la littérature, chez nous, ça a toujours... il y a toujours eu des livres. Mon père, tous les étés, nous ramenait des cartons de livres pour les vacances. La famille de ma grand-mère aussi, mes grands-parents, donc Passion et Damien, étaient des très très grands lecteurs. Chacun avait son type de littérature préférée, mais ma mère aussi lisait énormément. Ma mère a toujours rêvé d'épouser un écrivain, elle épousait un poète, et elle-même aurait bien aimé écrire. Donc c'est vrai, de ce côté-là, j'ai une filiation, si vous voulez, qui m'a servi, hein, effectivement, parce que l'écriture, ça a toujours été quelque chose d'important dans notre famille. Et que
vous réalisez enfin aujourd'hui en publiant ce livre. Vous vous sentez un peu libérée aussi, Anne Terrier ?
Très heureuse. Pas libérée parce que...
Libérée de secrets de famille aussi peut-être?
Oui. C'est possible. Enfin, je me sens plus...
Plus légère?
Plus légère, pas libérée, mais plus le sentiment d'avoir justement raccroché avec l'histoire familiale, mais pas la bonne histoire, mais débarrassée effectivement de fake news, et du coup de pouvoir m'approprier un peu cette histoire sans les traumatismes, sans les erreurs, sans les... Mais pour moi, c'est surtout une très grande joie d'avoir pu parler du pays de ma mère qui est décédée l'année dernière et puis de me sentir aussi plus proche d'Edouard, quelque part. C'est vrai qu'avec Edouard, j'ai jamais eu aucune discussion intellectuelle, parce que c'était pas notre mode de fonctionnement. On avait un fonctionnement affectif, c'était mon oncle et il disait que j'étais sa nièce préférée. Mais donc c'était purement affectif. Mais en même temps, le fait d'avoir fait ce livre, je sais qu'il aura été fier, qu'il aura été heureux. Et ça me rend heureuse par rapport à sa disparition de l'avoir fait.
Un livre qui paraît 10 ans après sa disparition, justement.
Oui.
En 2011.
Oui.
Et qui laisse encore un grand vide. Merci beaucoup, Anne Terrier.
C'est moi qui vous remercie.
D'être venue nous parler de ce roman biographique intitulé La malédiction de l'Indien, mémoire d'une catastrophe, dans la collection Continent Noir aux éditions Gallimard.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Sol majeur.